Il est 4h à Paris, 2h en temps universel.
Arthur Ponchelet.
À la une, aucun répit dans les combats à Gaza, malgré la fin prochaine de la phase intense des combats selon l'armée israélienne. Les civils subissent encore et toujours les bombardements. Ils sont 2 millions à avoir été déplacés depuis le début de la guerre. Le Front républicain en action pour les élections législatives en France. Plus de 200 candidats de gauche et du parti présidentiel se sont désistés de la course à l'Assemblée, avec un objectif, faire barrage au Rassemblement national. Dans ce journal également, nous irons à Kiev où le Premier ministre hongrois Viktor Orban était en visite ce mardi. Et puis direction les Philippines et l'Indonésie, les deux pays ne parviennent pas à se passer du charbon. Les civils de Gaza sont plongés dans une abîme de souffrance. Les mots de la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour Gaza. Ils sont près de 2 millions. 2 millions à avoir été déplacés depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Les responsables israéliens promettent bientôt la fin de la phase intense des combats sur place, avec un désengagement progressif de l'armée. Mais en attendant, les bombardements restent très intenses. Aucune zone n'est épargnée. L'armée israélienne a d'ailleurs émis un ordre d'évacuation qui vise les régions de Khan Younes et de Rafah. Il concerne 250 000 personnes selon l'ONU. Témoignage dans la bande de Gaza, recueilli de Jérusalem par Sami Boukhalifa.
Ils fuient de nouveau par milliers, à pied ou entassés à l'arrière de camions, épuisés, éreintés par des mois de guerre. Une population démunie condamnée à errer dans un territoire assiégé. Il faut démonter les tentes de fortune, emporter les matelas, les couvertures. C'est une malédiction, un exode sans fin, raconte Hadja Fatma.
Ce n'est pas une vie. Cette guerre nous prive de sommeil, d'eau, de nourriture. On doit tout le temps fuir. On est comme des nomades, sauf qu'on n'a nulle part où trouver refuge. Nous vivons une succession de déplacements forcés.
Dans le ciel, les chasseurs bombardiers israéliens. Les cibles, Rafah et Khan Younes dans le sud. Le nord de la bande de Gaza n'est pas non plus épargné. Shujaïa, Jabalia, c'est là que vit Hafez.
Ici, la souffrance est notre lot quotidien. Je n'arrive pas à trouver de la nourriture pour mes enfants et ça me fait mal à l'âme. Il nous reste quelques conserves de pois chiches. Nous les donnons aux enfants comme si c'était des médicaments. Quelques grains à chaque repas. Le monde entier voit ce qui se passe ici. Et pourtant, on se sent bien seul.
Je ne sais pas quelles valeurs, quels principes régissent ce monde. Je ne sais pas au nom de quelle idéologie ou religion cette souffrance nous est infligée. Gaza est un cimetière peuplé d'orphelins et de mutilés, conclut le père de famille. Sami Bourkifa, Jérusalem. RFI.
Et toujours sur le front de la guerre entre Israël et le Hamas, notez ce mardi cet échange téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Le président français appelle le premier ministre israélien à ne pas engager de nouvelles opérations près de Khan Younes et Rafah, mais aussi à prévenir un embrasement entre Israël et le Hezbollah. La guerre se poursuit aussi en Ukraine où Volodymyr Zelensky accueillait l'un de ses homologues les plus controversés. Il est l'un des dirigeants européens les plus proches du Kremlin. Viktor Orban était à Kiev ce mardi. Le premier ministre hongrois, dont le pays vient de prendre la présidence tournante de l'UE, a appelé l'Ukraine à un cessez-le-feu à rebours des positions européennes. Une trêve dans les combats qui serait limitée dans le temps et permettrait d'accélérer les négociations de paix, selon lui. Pas de réaction directe de Volodymyr Zelensky à cette proposition. Le président ukrainien a préféré plaider une nouvelle fois pour le maintien du soutien européen à Kiev. Écoutez.
Je suis reconnaissant à la Hongrie pour le soutien apporté à notre peuple et pour l'aide humanitaire apportée à l'Ukraine. Toute manifestation de protection de la vie est très importante pour nous. La Hongrie a participé au premier sommet de la paix et a soutenu le communiqué du sommet, ce qui montre qu'elle est prête à contribuer efficacement au rétablissement d'une véritable sécurité à long terme. Nous apprécions que votre visite ait lieu juste après le début de la présidence hongroise de l'Union européenne. C'est une indication claire de nos priorités européennes communes, de l'importance d'apporter une paix juste à l'Ukraine et à l'ensemble de l'Europe, et de l'importance de résoudre les difficultés existantes et de fournir de nouvelles fondations pour une Europe plus forte pour la croissance économique et sociale. Il est également très important pour nous tous en Europe que le soutien de l'Europe à l'Ukraine reste à un niveau suffisant, y compris notre défense contre la terreur russe.
le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Notez également la réponse du département américain d'État ce mardi. La seule solution est que la Russie quitte tout simplement le territoire ukrainien. Aux États-Unis, Joe Biden tente pendant ce temps de rassurer sur son état de santé. Le président américain assistait à une collecte de fonds tout à l'heure. L'occasion pour lui de revenir sur son débat raté face à Donald Trump. Conséquence, selon lui, de la fatigue liée à ses déplacements internationaux. « Je n'ai pas écouté mes conseillers et je me suis presque endormi sur la scène », a-t-il expliqué. Sa vice-présidente Kamala Harris se dit-elle fière d'être la colistière de Biden. Nouveau signal envoyé au camp démocrate que le président sortant ne compte pas se retirer de la course à la Maison-Blanche. Le temps des tractations est fini en France. Depuis 18h, on connaît les candidats pour le second tour des élections législatives. Plus de 200 candidats arrivés en troisième position et qualifiés pour des seconds tours se sont retirés. Objectif, empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue. Pierrick Bonneau, un front républicain s'est bel et bien reformé pour empêcher le RN d'arriver au pouvoir.
Environ 130 membres du nouveau Front populaire de gauche, 80 candidats de la coalition présidentielle et 2 députés rattachés au LR de droite sur plus de 300 triangulaires. Dans l'écrasante majorité des cas, ces désistements interviennent dans des circonscriptions où le RN est en mesure de l'emporter. Plusieurs membres du gouvernement jettent l'éponge. La ministre Dominique Faure, qui avait pourtant annoncé en début de semaine qu'elle se maintenait, la secrétaire d'État Patricia Mirallès. Dans le Calvados, c'est un candidat insoumis qui s'est retiré pour favoriser la réélection de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, que la gauche a pourtant vigoureusement combattue. Dans l'autre sens, en dépit de la stratégie ni RN ni LFI prônée par Édouard Philippe, un candidat Horizon se désiste en Seine-Maritime au profit d'une députée insoumise sortante. Quelques exceptions cependant à ce front républicain, comme le candidat Renaissance Loïc Signor, arrivé troisième dans sa circonscription du Val-de-Marne et qui se maintient pour faire barrage à l'insoumis Louis Boyard, au risque de favoriser l'élection du candidat RN, mais globalement, le barrage que la gauche et le camp présidentiel ont voulu ériger contre l'extrême droite est en place.
En Haïti, bientôt un deuxième contingent de la force multinationale d'appui à la police. C'est ce qu'a annoncé le nouveau Premier ministre Gary Conny dans une interview. Cela devrait se faire très vite, a-t-il déclaré, sans donner de précision sur le nombre de policiers attendus. L'ouragan Beryl, en route pour la Jamaïque, il a frappé les Antilles hier, provoquant d'importants dégâts et faisant au moins 4 morts dans les îles Grenadines. Un temps classé en catégorie 5, l'ouragan est en train de perdre en puissance. Les épisodes climatiques extrêmes rendus de plus en plus fréquents par le réchauffement climatique. Pour le limiter, il faut notamment sortir des énergies fossiles. Mais aux Philippines et en Indonésie, la tâche est difficile. Les deux pays sont toujours aussi dépendants au charbon et le sont même de plus en plus, selon le think tank Amber. Alors que ce combustible fossile est particulièrement nocif pour le climat, sa part dans le mix énergétique des deux archipels a augmenté l'an dernier, Pauline Glaise.
En Indonésie, la part du charbon dans le mix électrique a atteint un record l'an dernier. Ce combustible fossile, très émetteur de gaz à effet de serre, a fourni près de 62% de l'électricité de l'archipel. Même chose pour les Philippines, où la part du charbon a progressé de 3%. La principale explication, c'est tout simplement que la demande en énergie augmente. Le charbon est utilisé pour combler ses besoins croissants dans les deux économies du sud-est asiatique. Cela dit, aux Philippines, il est aussi venu suppléer une baisse de la production d'autres sources, bioénergie et gaz par exemple. Si les deux pays sont gourmands en charbon, ils ont pour autre point commun d'être à la traîne en termes d'éolien et de solaire par rapport à la moyenne régionale. Pour sortir de sa dépendance au charbon, Jakarta a conclu en fin d'année dernière un partenariat pour une transition énergétique juste, un JETP. Il prévoit un financement international de 20 milliards d'euros pour favoriser le sevrage.
Un mot de l'Euro de football avant de refermer ce journal. La Turquie a battu mardi l'Autriche, 2-1. La Turquie qui affrontera donc les Pays-Bas en quart de finale. Un peu plus tôt, les Néerlandais se sont débarrassés de la Roumanie sans difficulté, 3-0. Direction donc pour les Pays-Bas, les quarts de finale pour la première fois depuis 2008. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Il est 4h passées de 10 minutes. Ici à Paris, c'est la fin de ce journal. Tout de suite sur RFI, c'est 8 milliards de voisins.